Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le mercredi 17 novembre. Alors ça fait toujours beaucoup beaucoup de bien d'entendre Mariah Carey, hein. Je vais jamais m'en plaindre. Mais c'est pas encore Noël.
Non, mais cela n'a pas empêché hier soir les Bleus de ramener un cadeau du pays, du Père Noël. Et oui, une victoire 2-0 en Finlande. Voilà une belle façon de conclure 2021 pour l'équipe de France.
L'actu de ce mercredi, c'est aussi l'épidémie de Covid. Près de 20 000 contaminations hier. Le congrès des maires, 1 000 d'entre eux seront reçus ce soir à l'Élysée. Et puis, il y a cette proposition de loi, Julien, dont vous nous parlez.
Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Alors, on connaît tous Julian Assange ou encore Irène Frachon, la pneumologue à l'origine du scandale du Mediator. Mais la plupart des lanceurs d'alerte sont des anonymes qui, bien souvent, paient au prix fort les scandales qu'ils révèlent au grand jour. Licenciements, carrières brisées, procédures judiciaires à répétition. Tout cela a un coût humain et financier. Le problème, c'est que l'actuel texte de loi n'est pas suffisamment efficace. Il faut davantage protéger nos lanceurs d'alerte. Et c'est le sens de cette proposition de loi qui sera examinée tout à l'heure à l'Assemblée nationale. On en parle à 6h10 avec le rapporteur de ce texte, le député Sylvain Waserman. Omblin, vous revenez ce matin à nouveau sur ce projet de flèche surplombant la basilique royale de Saint-Denis en région parisienne.
Et oui, la basilique de Saint-Denis, Julien, la nécropole des rois de France. Hier, nous appelions cette flèche la flèche de la discorde. Il faut dire que le projet de sa reconstruction fait polémique depuis plusieurs semaines. Je rappelle que cette flèche et son clocher ont été démontés il y a 175 ans après d'importantes intempéries. Il devrait donc être remonté, reconstruit pour rendre la basilique de Saint-Denis joyeux du patrimoine français, sa silhouette qui a fait sa célébrité dans l'histoire.
Et un certain nombre d'experts s'opposent à ce projet. Nous en avons entendu un hier matin sur Europe 1.
Effectivement, et bien aujourd'hui à 5h40, le droit de réponse de Jacques Moulin, qui est architecte en chef des monuments historiques en charge du projet de la flèche de Saint-Denis.
Enfin, on terminera avec votre partition, Omblin.
Il fête ses 40 ans de carrière ce mois de novembre. Début des années 80, la naissance de la Daomania, la partition d'Étienne Dao à 6h20.
Vous avez le programme et on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Alors on se répète un peu tous les matins, mais c'est gris encore une fois.
Mais alors je préfère vous prévenir Julien, vous allez vous répéter encore beaucoup parce que c'est vraiment la tendance pour cette deuxième partie du mois de novembre. C'est vrai que c'est très gris. Alors aujourd'hui par rapport à hier, on a en plus de l'humidité, donc prudence hein, sur la moitié nord, sur les routes, en particulier en Bretagne et sur les Ardennes. On a pas mal de brouillard ce matin. Et puis du sud-ouest jusqu'au nord-est en passant par l'Auvergne, on a de la bruine. Vous savez ce petit crachin là, cette pluie.
C'est toujours très agréable.
Voilà, toujours très agréable.
Et ben on a ça,
non, c'est pas bon du tout pour le brushing. On a ça entre le sud-ouest, donc entre le Pays Basque et l'Alsace. Alors ce matin, le ciel est gris sur les trois quarts du pays. Le sud-est, la Provence, les Alpes, la Côte d'Azur, la Corse sont sous le soleil. Ils ont de la chance. Le ciel est clair en montagne aussi, hein, sur les Alpes et les Pyrénées. Puis cet après-midi, les nuages vont dominer partout, sauf au bord de la Méditerranée et dans le nord-ouest. Voilà, si vous nous écoutez sur les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, là vous aurez de belles éclaircies cet après-midi. On a 1 degré dans le Cantal, 4 à 9 degrés en général et jusqu'à 13 degrés ce matin au bord de la Méditerranée.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Macron en opération séduction à 5 mois de la présidentielle. Le chef de l'État reçoit 1000 maires ce soir à l'Élysée, juste après les résultats du scrutin de l'élection du nouveau président des maires de France. Il ne leur reste plus que quelques heures pour voter. D'un côté, David Lisnard, vu comme l'héritier du président sortant, François Baroin. De l'autre, Philippe Laurent, jugé Macron compatible. Les rayons café et pâte à tartiner pourraient se vider dans les supermarchés. Bruxelles propose aujourd'hui d'interdire l'importation de produits qui participent à la déforestation dans leur pays d'origine. Et puis Kylian Mbappé est fait pour battre des records selon son capitaine. Le prodige a encore offert hier soir une prestation XXL pour le dernier match de l'année des Bleus, 2-0 face à la Finlande.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Dernière ligne droite pour les maires de France. Ils votent en ligne pour élire leur nouveau président jusqu'à 15h. Ce sera David Lisnard, maire LR de Cannes, vu comme l'héritier de François Baroin, ou Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, considéré comme Macron compatible.
Et ce soir, après l'annonce des résultats, Emmanuel Macron accueillera 1000 élus à l'Élysée.
Mais il en manquera un, et pas des moindres. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, pas de quoi déstabiliser le président qui se lance à 5 mois de la présidentielle dans une opération reconquête des édiles. Jacques Serret, il faut les cajoler.
Oui, et le chef de l'État va mettre les petits plats dans les grands ce soir à l'Élysée. Près de 1000 maires vont être reçus au palais, buffet, dînatoire, dans la salle des fêtes, mais aussi, au vu du nombre de convives, sous une grande tente installée sur la pelouse présidentielle. Des élus de tous les coins de France, de toutes les sensibilités politiques, et également des maires ayant subi des violences. C'est l'occasion d'une rencontre informelle, fait savoir l'entourage du président. Pas de discours, juste un mot d'accueil. Et ensuite, Emmanuel Macron devrait enchaîner les selfies tout en tâchant d'écouter attentivement ses invités d'un soir, conscient de l'importance de leur rôle lors de la crise des Gilets jaunes d'abord, puis lors des vagues successives de l'épidémie de coronavirus. À 5 mois de la présidentielle, hors de question pour Emmanuel Macron de faire l'impasse sur ces acteurs de terrain qui peuvent se faire les relais de son action. Et si l'un des plus célèbres maires de France, l'édile du Havre, Édouard Philippe, ne sera pas de la partie, c'est pour une bonne raison. L'ex-premier ministre est attendu au même moment à l'hôtel de la C, la présidence de l'Assemblée, pour un dîner de travail sur la maison commune, censé réunir toutes les composantes de la majorité. Définitivement, la Macronie tente de s'activer sur tous les fronts en vue de 2022.
Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Olivier Véran poursuit de son côté sa tournée des régions pour distribuer des enveloppes contenant des dizaines de millions d'euros d'investissements prévus dans le Ségur de la Santé.
Le ministre de la Santé était en région Pays de la Loire hier pour annoncer le déblocage de plus d'1,2 milliard d'euros destinés à financer 165 projets de soutien aux établissements sanitaires et médico-sociaux.
Et parmi tous les projets, il y a la modernisation de l'hôpital de Châteaubriant en Loire-Atlantique.
Oui, et grâce à ces fonds, l'établissement espère devenir plus performant, attirer de nouveaux soignants. Reportage de notre correspondante dans l'Ouest, Sandrine Prioul.
C'est une petite ville entre Nantes et Rennes, 12 000 habitants, mais potentiellement 100 000 à soigner. Alors quand le patron de l'hôpital, Éric Manœuvrier, a appris hier que son projet de 44 millions d'euros serait financé par le gouvernement.
C'est un signal fort, on va pouvoir moderniser notre établissement, d'avoir un outil de travail et un plateau technique le plus performant possible. Et le point numéro 2, c'est d'être suffisamment attractif pour faire venir des professionnels de santé.
Mais rendre l'hôpital plus beau, urgence, EHPAD, hébergement, c'est doublement vertueux, ajoute le maire de Châteaubriant. Lancé dans un projet de maison de santé pour sauver la médecine de ville, Alain Huneau sait désormais qu'à côté d'un hôpital performant, les praticiens viendront.
Complètement. Ma politique a été de mettre tout le monde au même endroit, progressivement, de façon à ce qu'on crée cette dynamique professionnelle et atténuer cette problématique de l'insuffisance de médecins généralistes en France.
Une maison de santé pour laquelle le maire vous assure qu'il reçoit même des demandes de réservation. Une vingtaine de praticiens sont attendus pour septembre prochain. Rennes, Sandrine Prioul, Europe 1.
Il est 5h passé de 4 minutes sur Europe 1. Je l'ai tué. David Rameau a avoué au premier jour de son procès.
Jugé devant la cour d'assises du Nord pour le viol et le meurtre de la petite Angélique en avril 2018. D'un côté, l'homme, père de famille exemplaire. De l'autre, un monstre récidiviste. Déjà condamné en 1996 pour viol et libéré en 2000, il n'a fait l'objet d'aucun suivi psychologique. Situation qu'il dit regretter et demande pardon aux parents de la fillette. Lionel Gougelot, vous êtes notre correspondant dans le Nord. Le profil de David Rameau constitue un vrai mystère pour les acteurs du procès.
Dans une lettre à son ex-épouse, il s'était qualifié lui-même de pourriture. Et devant la cour d'assises, David Rameau regrette de ne pas avoir fait l'objet d'un suivi psychologique après sa première condamnation pour le viol d'une adolescente. « J'avais honte de ce que j'étais au fond de moi », dit-il. Des regrets tout sauf sincères, estime Yves Crespin, avocat parti civil pour l'association Enfants Bleus.
Il peut toujours exprimer le regret, mais c'est trop tard. Il n'a jamais, à aucun moment, montré sa volonté de se faire soigner ou d'être suivi. On le voit bien, puisque dès qu'il est libéré, on va laisser ça sous silence, y compris avec la famille, pendant 18 ans.
Son ex-épouse Laetitia met en garde la cour d'assises sur ses capacités de manipulation. Elle qui se sent coupable de ne pas avoir repéré les déviances de ce père de famille modèle qui pensait avoir maîtrisé ses démons, selon son avocat Éric Demey.
Je pense qu'il avait sincèrement le sentiment d'être entre guillemets guéri, si tant est qu'il était malade. Je trouve que de lui reprocher de ne pas avoir été à l'initiative d'un suivi, je pense que sincèrement, enfin personne d'ailleurs, n'a pensé qu'il fallait qu'il ait un suivi psychologique.
Pourtant, certains semblaient avoir perçu le danger après sa sortie de prison en en 2000, sa demi-sœur refusera toujours de confier sa petite fille à l'oncle David. À Douai, Lionel Gougelot, Europe 1.
Votre café préféré ou votre pâte à tartiner du petit déjeuner peut-être bientôt interdit dans les rayons du supermarché.
Oui, car la Commission européenne prépare une loi pour restreindre l'importation de produits qui participent à la déforestation dans leur pays d'origine, comme en Amazonie, où le mois dernier, par exemple, 877 km² de forêt ont disparu au profit notamment de l'agriculture intensive. Isabelle Horry, vous êtes notre correspondante à Bruxelles. La proposition est présentée aujourd'hui.
Oui, les Européens ne veulent plus contribuer à cette déforestation. Elle est mauvaise pour le climat et l'environnement. Or, on sait qu'aujourd'hui, au Brésil, en Indonésie ou encore en Côte d'Ivoire, des arbres sont arrachés et des forêts détruites pour augmenter les surfaces agricoles. La Commission européenne va donc proposer de ne plus importer de café, de cacao, d'huile de palme, de soja, de viande de bœuf ou de bois issus de ces zones. Selon les estimations, les importations européennes de ces 6 produits emblématiques seraient responsables de jusqu'à 10% de la déforestation mondiale. À l'avenir, pour entrer sur le marché européen, les importations devront être accompagnées d'un certificat. Il devra donner les coordonnées géographiques de leur lieu de production. Ça s'appliquera aussi aux produits dérivés comme le chocolat ou des meubles en bois, par exemple. Grâce au programme de satellite Copernicus, les Européens disposent d'un historique fiable de l'évolution des surfaces agricoles, ce qui leur permettra de vérifier. Pour entrer en vigueur, cette proposition devra être adoptée par le Parlement européen et par les États.
Isabelle Horry, correspondante Europe 1 à Bruxelles.
Direction la Finlande, pays du Père Noël. Et le Père Noël, hier soir, avait 22 ans et la peau café au lait, c'était Kylian Mbappé.
Son cadeau, une prestation magistrale sur la pelouse d'Helsinki pour le dernier match de l'année des Bleus, déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2022. Résultat à la hauteur des espérances, 2-0. Début signé Benzema, Mbappé. Jean-François Pérez, le jeune joueur, s'est montré une nouvelle fois hallucinant.
Oui, son sprint prodigieux pour déposer son adversaire, sa frappe aussi pure comme la pluie finlandaise, avait quelque chose d'inexorable. Kylian Mbappé a bouclé hier soir l'année des Bleus de la plus belle manière, 24 buts en 53 sélections, le tout à 22 ans à peine, quasiment l'égal au même âge d'un Pelé ou d'un Ronaldo. Témoin de cette carrière stratosphérique, son capitaine Hugo Lloris est admiratif.
Il est fait pour battre les records, il est fait pour aller gagner énormément de titres, et en tout cas il a ça en lui, et il ne faut pas qu'il se donne des limites.
Certes, Mbappé a raté son pénalty contre la Suisse à l'Euro, mais il assume son échec et dit en avoir tiré les leçons. Son entente avec Karim Benzema change tout ou presque pour les Bleus. Didier Deschamps en est le premier conscient.
C'est que du bonheur. Ils ont cette relation technique. Je vais les mettre dans des glaçons tranquilles pour qu'ils soient au frais.
Rendez-vous dans 4 mois pour la suite d'un feuilleton palpitant qui mènera Mbappé et les Bleus à la Coupe du Monde au Qatar.
Jean-François Pérez, et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h09 sur Europe 1, c'est l'heure des courses avec Thierry Léger, le pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Deauville et mon pari gagnant sera le 707 Roc Blanc, auteur d'une course de rentrée victorieuse des plus convaincantes. Après plus de 3 mois d'absence le 21 octobre sur cette piste en sable fibré d'Auvillaise, il trouve dans la foulée des conditions de course idéales qu'il ne devrait pas laisser échapper. Alors notez bien, pour cet après-midi à Deauville, réunion 1 dans la 7e course, le numéro 7, Roc Blanc.
Roc Blanc, le numéro 7, c'est noté. Merci Thierry Léger et à tout à l'heure pour les pronostics du Quintet. Très bon mercredi à tous et merci de nous avoir confié votre réveil. Dans un instant, c'est le pressing.
On a épluché la presse du jour et on vous parle ce matin des mairies qui louent des distributeurs de billets, des révélations sur le plateau de la petite maison dans la prairie et de la nouvelle égérie du salon de l'agriculture. À tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h10, très bonne matinée avec Europe 1 qui commence avec nous. Vous avez bien raison, c'est le pressing et nous sommes rejoints par Martin Lange.
Bonjour Martin. Bonjour Julien, bonjour. Bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux qui tous reviennent sur cette catastrophe évitée de justesse lundi, la destruction à l'aide d'un missile russe d'un satellite dont les débris ont mis en danger les astronautes de la Station Spatiale Internationale. Le missile russe qui relance la bataille de l'espace, titre Le Figaro. À quoi joue Poutine, se demande aujourd'hui en France. Réponse à la une de Libération. Un concours d'orbite. Les Échos s'intéressent pour leur part à l'hydrogène. Le pari français prend forme, titre Le Quotidien économique. Emmanuel Macron porte à 9 milliards d'euros les fonds destinés à développer la filière qui pourrait, d'ici 2030, représenter entre 50 000 et 100 000 emplois. Et puis les Magnifiques, c'est le titre à la une de l'équipe après la victoire 2-0 hier soir des Bleus face à la Finlande. Voilà pour les unes. Martin, on commence avec vous. Quel article vous a tapé dans l'œil ce matin?
Eh bien, des nouvelles ce matin de nos distributeurs à billets.
Ah, il marche comme ça, vos distributeurs près de chez vous ?
C'est le casino chez vous. J'ai une carte gold, c'est comme ça. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines déjà, je vous parlais de ces trois grandes banques françaises, la BNP, la Société Générale et le Crédit Mutuel, qui étudient l'idée de mutualiser leurs DAB avec deux objectifs, hein, faire des économies, bien sûr, mais aussi mieux répartir l'offre sur le territoire, car les distributeurs à billets sont une espèce en voie de disparition, hein, surtout dans les zones rurales. En trois ans, près de 4000 ont disparu, selon la Banque de France. Et face à cette pénurie, hein, deux transporteurs de fonds, Brinks et Loomis, proposent une solution, la location de DAB, un service qui séduit de plus en plus de communes et qui pourrait encore se développer, hein, grâce au Salon des maires qui se tient en ce moment à Paris.
Alors, comment ça marche concrètement, Martin, ce distributeur de DAB ?
Eh bien, c'est très simple, hein, l'un des deux transporteurs installe un distributeur dans une commune, coût de l'installation 15 à 20 000 euros. Ce même transporteur vient ensuite le recharger, hein, c'est son cœur de métier, et la mairie paie un loyer fixe ou variable en fonction du nombre de retraits effectués, loyer qui oscille entre 800 et 1200 euros par mois.
Alors, c'est pas donné, 15 à 20 000 euros rien que pour l'installation, mais les maires n'hésitent pas.
Oui, Brinks et Loomis ont déjà installé 150 machines dans tout le pays. Alors d'abord dans des petites communes isolées comme Gragnan en Haute-Garonne ou Aigre en Charente. 1600 âmes et un boulanger qui ne prend pas le sans contact. Selon le maire, le nouveau DAB a redynamisé le centre-ville avec plus de 1200 retraits par mois, bien au-dessus des espérances. Plus surprenant, il y a aussi des villes moyennes déjà équipées de distributeurs qui se lancent, comme Gagny, 40 000 habitants en Seine-Saint-Denis, ou encore Clé dans l'Isère. Là-bas, c'est pour mettre fin à une aberration géographique que le maire a investi. Le seul DAB était séparé du bourg par l'autoroute, impossible de s'y rendre sans voiture, et aucune banque pour installer un distributeur dans le centre, trop cher. La mairie a donc dû se résoudre à offrir ce service à ses administrés. Quand les mairies louent des distributeurs de billets, c'est à retrouver dans le Parisien.
Eh bien écoutez, c'était... très intéressant. L'étape d'après, c'est quoi ? C'est les mairies qui vont devenir des banques, en fait.
Peut-être, hein, peut-être.
Puisque c'est un peu le sens de cette histoire. Merci beaucoup, Martin. Omblin.
Un livre qui fait l'effet d'une bombe est paru hier aux États-Unis. Le quotidien Midi Libre en parle ce matin. Le site du magazine Le Point également. Ce livre est signé Karen Grassol. Vous la connaissez sans doute bien mieux sous le nom de son célèbre personnage à la télévision, Caroline Ingalls. Karen Grassol balance, et elle balance fort sur celui qui, depuis presque 50 ans, véhicule l'image du bon père de famille, sévère mais juste, du mari aimant, irréprochable, de l'ami fidèle, du joueur de violon au bord de la cheminée. Hein. Vous l'avez vu, non ? Oui. Par los aficionados. Du travailleur qui, de ses mains, a quand même bâti une maison en bois au milieu de nulle part dans la campagne rude du Minnesota. Oui, je parle bel et bien de Charles Ingalls, ou plutôt de son comédien Michael London, héros, créateur et producteur de la légendaire Petite Maison dans la Prairie. Il y a au fond de moi, je dois bien l'avouer, une petite fille qui sanglote à la lecture des révélations de Karen Grassol dans ses mémoires baptisées Bright Lights, Prairie Dust, comprenez, sous les lumières vives, la poussière de la prairie. Pour la bienveillance et la sympathie, eh bien on repassera, hein, nous dit celle qui incarnait donc son épouse à l'écran. Charles Ingalls, côté face, l'homme dévoué dans la série. Côté pile, l'homme sexiste, grossier dans la vie, avec des blagues fortement douteuses sur, par exemple, l'odeur d'une femme après un rapport sexuel. Un homme connu pour avoir des sérieux problèmes d'alcool. Son carburant sur le plateau était des vodka café. Le pire, sans doute, a été son refus lorsqu'elle. Son carburant, donc le vodka café. Et le pire, sans doute, a été son refus lorsque Karen Grassol a demandé une augmentation en affirmant, lui affirmer que son salaire, aligné sur celui des enfants du casting, était largement suffisant. Elle finira par obtenir gain de cause, mais elle sera éloignée ensuite des intrigues principales. Voilà, bon joueur quand même. Pourquoi des révélations aussi tard, vous allez me demander ? Eh bien, Michael London a quand même succombé il y a 30 ans à un cancer. Peut-être la libération de la parole des femmes dans les médias et le cinéma l'a convaincu qu'il était temps de ne plus se taire. Et après ces révélations, eh bien une autre comédienne, Alison Arngrim, qui jouait le rôle de Nellie Olson, en a rajouté une couche, pas des moindres, dans le journal britannique le Daily Mail. Je cite « Les gens ont encore l'image de lui d'un fermier sain et gentil, mais quand on le connaissait, il était surtout fou, mauvais et dangereux ». Voilà, il est d'ailleurs arrivé à Michael London de reconnaître en interview qu'il était passé par des moments dépressifs, qu'il jurait, qu'il criait sur le plateau et d'ajouter « Personne n'est parfait, ni Charles Ingalls, ni Michael London ». Bon, personne n'est parfait, on peut quand même discuter de cette phrase.
Bon, du coup, c'est la petite maison de l'horreur dans la prairie.
C'est affreux, hein,
bon. Hein, ça change, ouais, ouais. Ça change totalement votre vision de la série.
C'est un mythe qui s'effondre.
C'est un drame, ce
matin. On attend la réponse de la famille, quand même.
Oui, en même temps, elle ne pourra pas trop se...
Bah si, c'est ses enfants, les enfants de Michael London.
Merci beaucoup, Omblin.
Avec plaisir.
Bah voilà, c'est affaire à suivre, hein, ce matin. Les amis, j'ai en revanche une recrue à vous présenter. Une copine qui a trouvé un boulot au prochain Salon de l'Agriculture en février et qui, en attendant, sera en stage d'observation avec nous. Je la fais entrer ?
Bah, avec plaisir.
Allez, entre. Entre. Ça va, t'as fait bon voyage?
Ça risque d'être un peu en dondon le pressing.
On va dire que c'est un oui. Voilà les amis, je vous présente Neige. Alors, bon, ce n'est pas n'importe quelle vache. Attention, c'est l'égérie du prochain salon de l'agriculture, s'il vous plaît. Et en plus, elle porte bien son prénom, Neige, parce qu'elle nous vient des plus belles montagnes de France, que dis-je, des plus belles montagnes du monde, les montagnes de Haute-Savoie. La patrie de votre serviteur, totalement objectif, vous l'aurez compris. Neige est une vache laitière née il y a 4 ans, en été, à 1600 mètres d'altitude, nous raconte Ouest France, sur une piste de ski, figurez-vous, au cœur de l'alpage du Maroli où elle pâture à la belle saison. Voilà pourquoi son lait est exceptionnel. Un lait transformé, tenez-vous bien, en reblochon, tom et raclette, le triptyque de l'extase absolue. Mais ce n'est pas tant pour ses fromages délicieux qu'elle a été sélectionnée, non. Ce qui a marqué les dirigeants du Salon de l'agriculture, c'est le regard de Neige. Il ferait fondre Vladimir Poutine. Il faut dire que... Oui, c'est pas rien. Il faut dire que cette vache illustre parfaitement la race abondance, une robe pirou, jacajou, une tête avec un épais chignon blanc, des cornes claires et, summum du chic, des taches rouges en forme de lunettes autour des yeux, idéales pour atténuer la réverbération du soleil et ainsi la rendre parfaitement adaptée à l'environnement de montagne. En clair, c'est un canon Neige, une bombe atomique, vous l'avez pas, le canon Neige, non. Une bombe atomique made in Grand Bornand, là où se trouve l'exploitation familiale de son éleveur, Philippe, qui transforme lui-même le lait de ses vaches en fromage. 200 reblochons par jour, au diable le cholestérol. Neige va figurer sur les affiches de l'édition 2022 du Salon et vous pouvez la voir, vous pourrez la voir en chair et en os à partir du 26 février, porte de Versailles à Paris, un salon de l'agriculture particulier cette année, vu qu'il aura lieu un mois seulement avant le premier tour de la présidentielle. Les candidats vont donc défiler telle une avalanche devant Neige qui, dit-on, réfléchirait à se présenter elle aussi. Vous voulez connaître sa proposition phare ?
S'il vous plaît.
Reblochon pour tout le monde.
Pas loin. Remboursé par la Sécu.
Ah, encore mieux. Et elle est ravie. J'aimerais bien connaître les concurrentes de Neige. Il y a eu un casting peut-être pour savoir si elles étaient
aussi belles. C'est pas raconté, mais j'aimerais bien connaître les coulisses, effectivement.
C'est comme Miss France.
Mais c'est pareil. Merci Julien Rideau sur le pressing. Et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour le Journal des Sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1, les principaux titres de ce mercredi avec Alban Le Prince.
Toutes dernières heures pour les 34 000 maires de France qui élisent leur nouveau chef en ligne jusqu'à 15h. En lice, David Lisnard et Philippe Laurent. Après l'annonce des résultats, Emmanuel Macron recevra l'Élysée Milédil. Opération séduction pour le président à quelques mois de la présidentielle. Escalade de violence à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Les forces polonaises ont fait usage de gaz lacrymogène et déployé des canaux à eau hier contre des migrants qui jetaient des pierres et tentaient de passer la frontière. Minsk a d'ailleurs accusé Varsovie d'aggraver la situation. La Russie, prise à partie, dénonce des déclarations hypocrites de Washington qui l'accuse d'avoir mis en danger l'équipage de l'ISS. Conséquence de la destruction lundi d'un vieux satellite russe en orbite, provoquant un nuage de débris potentiellement dangereux. Et puis une prestation exemplaire pour les Bleus hier soir qui disputaient leur dernier match de l'année face à la Finlande à Helsinki. Résultat 2-0, début signé Benzema Mbappé.
Il est 5h20, les initiatives en France, notre coup de projecteur quotidien sur celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Jérôme Seize.
Bonjour Julien.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous avez 33 ans et vous avez inventé un dispositif qui pourrait sauver de nombreuses vies chaque année. Des bornes lumineuses visant à renforcer la sécurité des piétons sur les passages protégés. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Donc c'est une borne qui sera installée de part et d'autre du passage piéton pour sécuriser le piéton pour qu'il traverse et qu'il ne se fasse pas renverser.
Et donc ces bornes, quand une personne traverse le passage piéton, elles font quoi? Elles s'allument?
Voilà, donc les bornes s'allument. Il y a un gros logo piéton côté conducteur avec dessous un pictogramme marqué stop. Et ce marqué stop, il est rouge et clignotant.
On peut les installer même sur les passages piétons encadrés par des feux rouges, ces bornes?
Non, c'est pour les passages piétons hors feu rouge.
Est-ce qu'au-delà de l'aspect lumineux, ces bornes peuvent également lancer une alerte sonore, par exemple?
Oui, tout à fait. Pour les personnes malvoyantes, il y aura aussi une alerte sonore.
Et un bouton poussoir pour les enfants, c'est ça?
Voilà, il y aura un bouton poussoir qui est très éducatif et très ludique pour les enfants.
Alors expliquez-nous, comment est-ce que ces bornes détectent la présence d'un piéton?
C'est une détection par présence, c'est dès qu'un piéton s'approche, il marche au trottoir et dès qu'il se met face au passage piéton pour traverser, Il se met à côté de la bande, ça le détecte, et tout s'allume, les deux côtés de la route, comme ça au moins les deux sens de circulation sont au courant qu'un piéton veut traverser.
C'est un capteur en fait qui est présent dans la borne ?
Voilà, tout à fait.
Et ce détecteur de présence, il n'y a pas de risque qu'il se déclenche pour un oui ou un non ? J'imagine des feuilles qui tombent sur le passage piéton ou un rat qui traverse la route ?
C'est ça, tout à fait. On a fait des réglages et il tombe, on peut essayer avec un chiffon, une feuille, ça ne se déclenche pas.
Comment est-ce que vous est venue cette idée ?
J'ai été ambulancier pendant 10 ans, j'ai vu beaucoup de choses sur la route et j'ai vu beaucoup de piétons se faire écraser, j'ai eu constaté des accidents et moi-même j'ai failli des fois, je me suis fait surprendre par des piétons qui étaient déjà engagés ou qui allaient s'engager sur un passage piéton. Et je me suis dit, c'est pas possible de rouler, de ne pas voir ces piétons, il faut vraiment augmenter leur visibilité. Et je me suis mis à réfléchir sur une solution pour qu'on puisse prévenir les deux sens de circulation, que le piéton vient de la droite ou de la gauche.
Il y a effectivement encore beaucoup de personnes qui se font renverser sur nos routes. 53 piétons sont décédés rien que le mois dernier, c'est énorme.
Ben oui, malheureusement, c'est énorme. Et malheureusement, avec la fin du Covid, entre parenthèses, les gens reprennent une vie normale. Et du coup, ben, vu que les gens ressortent et remarchent de partout, les morts reprennent malheureusement les accidents, parce qu'il y a des morts, mais il y a aussi beaucoup de blessés.
Il y a un déficit de prévention, au-delà de l'innovation que vous nous présentez ce matin. Est-ce que vous estimez qu'on n'informe pas suffisamment les piétons sur les bonnes conduites à tenir ?
C'est comme tout, hein. On apprend plein de choses, mais le fait de la vie de tous les jours, on oublie certaines. Et malheureusement, des questions de sécurité simples, souvent, des fois, on les oublie. Et même si on oublie de faire attention à un piéton qui veut traverser, ben, la borne est là pour rappeler l'alerte avec un système lumineux.
Vous avez mis combien de temps à la développer, cette borne ?
Depuis que j'ai eu l'idée, que j'ai commencé à vouloir faire ce projet, il s'est passé 2 ans et demi.
Et vous l'avez déjà testé en conditions réelles ?
Du coup, je l'ai testé pendant 10 jours sur le concours Lépine. Et pendant 10 jours, elle marchait 10 heures par jour. Donc, elle marche très très bien. Il n'y a aucun problème.
Concours Lépine, où votre innovation, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais a impressionné le jury du concours, qui vous a attribué il y a quelques jours la médaille d'or. Félicitations.
Merci, c'est gentil. Oui, très content d'avoir reçu une médaille d'or au concours Lépine. Ça m'apporte une vitrine. Le concours Lépine, c'est un concours prestigieux. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont vu et qui ont entendu parler de mon projet. Et c'est très intéressant d'avoir une grosse visibilité nationale.
Est-ce que des communes se sont manifestées depuis que vous avez reçu cette récompense prestigieuse ?
Oui, tout à fait. J'ai des communes près de chez moi. La communauté de communes, une commune près de chez moi. Et ensuite, j'ai eu des communes près de Paris qui ont vu la bande sur place. Parce que pendant le concours Lépine, il y avait des milliers de personnes. En 10 jours, il est passé plus de 10 000 personnes, je pense. Et en fait, il y a eu des gens de la voirie, des gens des mairies, des adjoints, des maires qui sont venus, qui m'ont posé beaucoup de questions et qui étaient très intéressés.
Et vous êtes prêt à répondre dès maintenant à la demande ?
Non, malheureusement, non. On pourra répondre à la demande dans entre 9 mois et 1 an. Le temps de finir des tests et de pouvoir avoir les certifications pour poser la bande sur la route.
On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Merci beaucoup, Jérôme Seize, de nous avoir présenté votre innovation des bornes lumineuses pour renforcer la sécurité des piétons. Et ce, tout autour des passages protégés. Très bonne continuation et à bientôt.
Merci, Julien. Bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très beau réveil à tous, il est 5h28. Quel est le programme de la prochaine demi-heure, Omblin ?
Du cinéma dans la prescription culture avec un triangle amoureux, le nouveau film de Nicole Garcia et puis Pascal Elbé qui raconte avec humour et finesse ses problèmes d'audition. Rendez-vous dans un quart d'heure avec Laurie Choléva.
Mais avant, Omblin, un droit de réponse suite à votre interview d'hier.
Effectivement, nous retournerons devant la basilique de Saint-Denis en région parisienne qui abrite la nécropole des rois de France. Le projet de reconstruction de sa flèche est décrié par des historiens, des universitaires qui craignent notamment de voir l'édifice dénaturé. Vous avez eu l'occasion d'entendre ici même l'un des opposants à la flèche de Saint-Denis. Eh bien, rendez-vous dans 10 minutes avec l'un de ses farouches partisans. Il s'agit de Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques, qui est en charge du projet.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS à Gréac-Naps.
La météo avec Anissa Haddadi, que dis-je, professeur Haddadi ce matin. Expliquez-nous pourquoi l'anticyclone dont vous nous parlez depuis hier ne nous amène pas de soleil.
C'est vrai que l'anticyclone, là, il est posté sur la France.
Vous avez une minute.
Parfois, il est sur les îles britanniques, parfois, il est sur la Méditerranée. Là, il est posté vraiment au-dessus de la France. Donc là, si on était au mois de juin, on aurait un grand soleil sans aucun nuage, il ferait super beau. Bon, là, c'est pas le cas. On a beaucoup de grisailles. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà, parce que les jours sont plus courts en ce moment. Et la deuxième raison, c'est l'axe de la Terre. Vous savez que la Terre tourne autour du soleil. Et bien, l'axe en ce moment de la Terre, il n'est pas assez bon pour que les rayons du soleil arrivent jusque sur la France et nous offrent une journée très ensoleillée. Ce sont les nuages qui gagnent et surtout la grisaille et les brouillards. Vous êtes rassuré, Julien? Bon, tout est clair?
Tout est clair, c'est limpide, c'est brillant.
Non, du coup, aujourd'hui, ça sera très gris avec des brouillards sur la moitié nord du pays. Il fait gris partout, sauf dans le sud-est. Et cet après-midi, on aura de belles éclaircies dans le nord-ouest aussi, sur les pays de la Loire et la Bretagne. On a 1 degré à Aurillac ce matin, 3 à Rodez, 5 à Belfort, 7 à Paris et Lyon, 10 degrés à Cherbourg, 12 à Bastia. Cet après-midi, il fera un petit peu plus doux. On va gagner à 2 degrés.
On aurait dit un podcast du Collège de France. C'était magnifique.
Moins, oui.
Merci beaucoup, Anissa Dadi. Bon réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Eh bien là, je pense que je vais être verbalisé à 135 euros. Qu'est-ce que j'en pense, ça? Je suis curé, mais c'est pas grave, hein, il faut leur travailler.
Mise à l'amende pour absence de masque, cet employé d'un restaurant marseillais devra payer. Le gouvernement remet la pression face à la recrudescence des cas de contamination et demande aux forces de l'ordre de multiplier les contrôles. Cédric Jubilard restera en prison jusqu'au 22 novembre en attendant la décision de la cour d'appel. Hier, les avocats du mari de l'infirmière disparue ont plaidé une nouvelle fois sa remise en liberté. La visite d'Emmanuel Macron à Béziers, le président a été accueilli chaleureusement par l'un de ses premiers opposants. Le maire de la ville, Robert Ménard, salue l'engagement de l'État en faveur de sa ville. Et puis, faire du théâtre pour reprendre confiance en soi, c'est l'expérience proposée à plus de 500 apprentis. Ils monteront sur la scène du théâtre Marigny demain soir à Paris.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. On n'en a donc pas fini avec le Covid, c'est même tout le contraire. Hier, on a frôlé le seuil des 20 000 contaminations par jour, selon Santé publique France, du jamais vu depuis la fin août. Et même si contamination ne veut pas dire malade, même si cela ne se traduit toujours pas par un afflux de patients dans les hôpitaux, le gouvernement remet la pression sur les Français face au relâchement des gestes barrières. Eh bien, les autorités ont décidé de multiplier les contrôles comme à Marseille. Reportage Stéphane Burgat.
Midi, plein soleil sur la ville, les terrasses se remplissent. Premier contrôle, première verbalisation pour ce client.
Verbaliser, moi ?
Verbaliser pour le masque.
Et combien ? Ouais. 135 euros ? Ah bah vous pouvez toujours attendre.
Ils sont censés vous le dire, masque obligatoire.
Je le prends mal, mais moi personnellement je le prends mal. Ils sont rares les gens qui demandent le pass sanitaire, j'en ai pas trouvé encore jusqu'à présent.
Le personnel est également contrôlé au bar comme dans les cuisines où cet employé est pris en défaut.
Eh bien là je pense que je vais être verbalisé à 135 euros. Qu'est-ce que j'en pense, ça ? Je suis curé, mais c'est pas grave, hein, il faut leur travailler, t'es sûr.
Un relâchement général est constaté par la commissaire Céline Kans de la division sud de Marseille.
On le voit effectivement ces derniers jours, on n'a jamais cessé de contrôler les établissements et effectivement on a pu voir qu'il y a plus de mises en demeure et plus d'établissements qui ne respectaient pas la réglementation.
Mais il n'y a pas que des mauvais élèves, au contraire, comme dans cette brasserie près du stade Vélodrome.
Ah oui, un contrôle, c'est la règle chez moi. Hein, je ne veux pas être enfermé, monsieur. Hein, d'accord ? Ah, c'est contraignant, mais il faut le faire, c'est la loi.
Et depuis le début de la crise ici, plusieurs dizaines de bars et restaurants ont ainsi connu des fermetures administratives. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Le taux d'incidence s'envole bien au-dessus des 100 cas pour 100 000 habitants dans plus de la moitié des départements, mais le ministre de la Santé reste optimiste. On va passer cette cinquième vague comme on a passé la quatrième, affirme Olivier Véran.
On en vient à l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. Les avocats de Cédric Jubilard ont demandé une nouvelle fois la remise en liberté de leur client.
Cédric Jubilard est en détention provisoire depuis maintenant 5 mois. Il continue de clamer son innocence. Hier, devant la chambre de l'instruction, ses avocats ont plaidé sa remise en liberté. Selon eux, les preuves de sa culpabilité ne sont pas établies et ne justifient pas son maintien en détention. C'est ce qu'a expliqué maître Alexandre Martin au magistrat.
Cet homme clame son innocence, les mois passent, il ne se passe rien. Au jour où je vous parle, Cédric Jubilard n'a pas été entendu encore sur le fond du dossier. Il ne sera entendu qu'au mois de décembre, c'est inadmissible pour une affaire qui a démarré il y a maintenant un an, quasiment un an. On a tous les éléments pour l'interroger, on attend le mois de décembre parce qu'on essaie de gagner du temps, parce qu'entre-temps on espère avoir une trace de Delphine ou essayer de trouver un élément qui viendrait confondre définitivement l'idée préconçue par les juges d'instruction qui la tiennent des gendarmes que le seul coupable, ce ne peut être que Cédric Jubilard. Nous nous battons contre cette vision des choses. Nous allons continuer à nous battre et nous espérons que rapidement la chambre d'instruction fera droit enfin à nos demandes de mise en liberté pour que soit sacré le principe de la présomption d'innocence. Que l'enquête continue, oui, mais pas au détriment de cet homme.
Maître Alexandre Martin, l'un des trois avocats de Cédric Jubilard, au micro de Benjamin Péter. La cour d'appel rendra son jugement sur son maintien ou non en détention lundi prochain.
Emmanuel Macron lance son opération séduction auprès des maires. Un millier d'entre eux seront reçus ce soir à l'Élysée.
Le chef de l'État, effectivement, lance cette opération histoire de faire oublier des rapports parfois très compliqués qu'il entretient avec les élus locaux. Dîner à l'Élysée ce soir, discours demain à l'occasion de la clôture du 103e congrès de l'Association des maires de France. Emmanuel Macron donne de sa personne. Même ses adversaires sont sous le charme. C'est le cas de Robert Ménard, le maire de Béziers et soutien de Marine Le Pen, l'a accueilli chaleureusement hier lors de son déplacement dans une usine de production d'hydrogène décarboné.
Quand le chef de l'État fait quelque chose de bien, je le dis, à la différence de gens de parti, moi ça ne me coûte rien de dire merci monsieur le chef de l'État. Vous savez, on est une ville où les dotations de fonctionnement de l'État n'ont jamais été aussi importantes. Donc je ne vais pas dire, pour faire plaisir à la mouvance auquel on appartient, dire merde, l'État nous abandonne, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand le chef de l'État fait quelque chose de bien, bravo pour la France, bravo pour nous. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais quand c'est bien, c'est bien. Et venir dans une ville comme la nôtre, avec l'image que nous avons politiquement, je trouve, un, que c'est courageux, deux, que c'est pas sectaire, trois, que c'est intelligent de sa part. Tu peux pas ne pas parler à cette France-là.
Le maire de Béziers, Robert Ménard, au micro de Jacques Serret.
À quoi tient la confiance en soi? Peut-être à sa capacité à évoluer, à s'exprimer en public. Et le théâtre peut être une excellente thérapie.
C'est l'expérience menée avec 500 apprentis aux profils différents. Ils sont coiffeurs, plombiers, bouchers. Ils ont entre 16 et 28 ans et vont monter sur les planches du théâtre Marigny à Paris pour une série de représentations. Marie Jiquel a assisté aux répétitions. Reportage.
Aujourd'hui, les comptables, c'est nous!
Fini le cliché de l'expert comptable rabougri. Ses apprentis comptent bien dépoussiérer l'image de leur futur métier en passant par la scène. Un exercice périlleux pour ces étudiantes qui n'ont jamais fait de théâtre, mais l'expérience s'avère salvatrice pour Soukaina.
De base, je suis quelqu'un de très timide, je parle pas en public. J'ai du mal à mettre dans un lieu où il y a du monde. Et là, forcément, je dois me pousser pour pouvoir parler en public et me faire comprendre des gens alors qu'avant je m'en foutais. Donc oui, clairement ça m'a libéré la parole.
Les filles, si vous ne pensez pas ce que vous dites, si vous ne voyez pas ce que vous dites, nous on va pas le voir.
Pendant cette formation encadrée par des metteurs en scène, les apprentis apprennent à soigner leur posture et travailler leur voix. Pascal Sandoz, le fondateur d'Apprentiscène.
On fait d'ailleurs un travail comportemental sur la posture, et donc on voit la différence. Mais surtout au sein de l'entreprise, les maîtres d'apprentissage voient une grande différence.
Le plancher du théâtre Marigny permet aussi aux apprentis de nous partager leurs tourments au travail, comme les problèmes de racisme ou de misogynie.
Un reportage de Marie Jiquel du service culture d'Europe 1. Un mot de football, la France termine en beauté sa course à la qualification pour le mondial au Qatar. Victoire des Bleus 2-0 hier face à la Finlande. But de Karim Benzema et but somptueux de Kylian Mbappé.
Ah, je ne l'ai pas encore vu.
Et c'est pour ça que je préserve le suspense, mais allez le voir, vous ne serez pas déçus, Julien.
Bon, c'est noté. Vous aussi, chers auditeurs, allez le voir. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction Deauville pour ce quintet qui réunira un lot homogène de 16 chevaux âgés de 4 à 10 ans qui en découdront sur la distance de 1900 mètres et sur cette piste en sable fibré, priorité aux spécialistes. Avec les numéros 2, Monsieur Xo, entraîné sur place à Deauville par l'incontournable Yann Barbereau et dont l'aptitude à ce parcours est certaine. 15, Saint-Nicolas, en regain de forme, est lui aussi très confirmé sur cette surface. Et 12, Santazo, une magnifique jument grise idéalement placée ici et pour laquelle son entraîneur Alain Couetil est persuadé qu'elle va réaliser un plus sur le sable fibré. Ensuite, je vous recommande Piet, le numéro 9. Alan est capable d'aller très loin sur ce tracé qu'il apprécie. Et Sam, le numéro 8, souvent placé cette année dans cette catégorie des quintés. Enfin, les numéros 14, By My Side, 11, John Tianabella et 10, Allez Henry, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 2, 15, 12, 9, 8, 14, 11 et 10.
2, 15, 12, 9, 8, 14, 11 et 10 des pronostics à retrouver dès maintenant sur Europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain, 5h38 dans un instant sur Europe 1. On revient sur la controverse autour de la flèche de la basilique Saint-Denis.
Omblin Roche et Julien Pierce
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à tous. Il est 5h39 sur Europe 1 et nous revenons ce matin sur la reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France. Un projet qui, depuis plusieurs semaines, fait l'objet de vifs débats. Nous entendions d'ailleurs hier sur cette antenne Mathieu Lejeune, historien de l'art médiéval, qui fait partie des opposants à cette reconstruction. Eh bien, les partisans du pour ont demandé un droit de réponse. Alors, nous sommes en ligne avec Jacques Moulin, l'architecte en chef des monuments historiques qui dirige le chantier de la flèche.
Bonjour Jacques Moulin.
Bonjour.
Rappelons en quelques mots, quelle est cette flèche qui suscite la controverse. Elle a été bâtie en partie au XIIIe siècle, démontée en 1846 après avoir été fragilisée par de grosses intempéries, c'est bien ça ?
C'est bien ça, et elle a été démontée pour être remontée, et ça fait maintenant 170 ans que la commune réclame ce remontage.
Voilà, Julien le précisait, vous êtes en charge du chantier. Alors, quelle est votre volonté première, que la basilique retrouve toute sa superbe et la silhouette qui a fait sa célébrité dans l'histoire ?
Un projet pareil répond à plusieurs objectifs. Un objectif de monument, effectivement. Que la basilique retrouve le clocher qui l'a accompagné pendant 700 ans, qui avait fait la célébrité de l'édifice, sur lequel toutes les routes de la région convergeaient. Il y a beaucoup de monuments qui ont disparu dans l'histoire de France. Ils n'ont pas laissé de grands souvenirs ou de volonté de reconstruire. On n'a pas envie de remonter la Bastille. En tout cas, personne ne s'exprime dans ce sens. En revanche, il y a des endroits où il y a une histoire locale, une mémoire locale, qui s'est toujours accrochée à cette flèche. Et ce n'est pas un hasard si depuis 50 ans, municipalité après municipalité, la ville de Saint-Denis, quels que soient les changements politiques, a souhaité le remontage de cette flèche. Ce n'est pas un hasard. À un moment, un monument public doit répondre à une volonté publique.
Pourquoi un chantier comme celui pharaonique de Notre-Dame de Paris et sa flèche trouve l'adhésion et celui de la flèche de la basilique de Saint-Denis des craintes ? L'idée première est pourtant la même, préserver et faire rayonner le patrimoine français.
Exactement, mais avant les quelques controverses récentes, je rappelle quand même que la flèche a été et reste porté par les plus grands historiens de l'art français, que ce soit Jean-Michel Legnaud, que ce soit Alain Erland Brandenburg, feu Jacques Le Goff, un des grands médiévistes que nous avons connus en France, tous étaient partisans du projet, et je peux en citer beaucoup d'autres, Philippe Planieux, Eliane Verniolle, c'est-à-dire que tous les grands médiévistes aujourd'hui s'expriment en faveur de ce projet. Quelques marginaux sont allés inventer un certain nombre de défauts inexistants pour lancer la controverse. Libre à eux, mais à un moment, il faut un équilibre d'information.
Oui, bien sûr. Cette reconstruction est l'occasion aussi de mettre en avant des métiers, les tailleurs de pierre, les forgerons, mais également dynamiser, valoriser la formation des jeunes à ces métiers anciens. L'opportunité est exceptionnelle sur un chantier comme celui de la basilique de Saint-Denis.
Mais c'est parce que le chantier de la basilique est exceptionnel qu'il attire. J'ai lancé il y a 15 ans le chantier de Guédelon pour retrouver un certain nombre de techniques anciennes de travaux. Aujourd'hui, c'est le deuxième étage de la fusée, si l'on peut dire, ce chantier de la flèche, avec non plus une architecture un peu simple comme celle d'un château médiéval dans la Puisaye, mais celle d'un des grands monuments médiévaux de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle. C'est une occasion de former des tailleurs de pierre à la spécialisation qu'est la restauration des monuments historiques, en leur faisant utiliser les bons outils, les bons matériaux d'origine, les bonnes mises en œuvre anciennes, parce que l'on ne pourra restaurer et Notre-Dame de Paris et tous les autres monuments de France que si l'on a un véritable atelier de formation des restaurateurs spécialisés. C'est ça que doit être Saint-Denis, notamment. Ce n'est pas qu'un projet pour une basilique, c'est un projet pour aujourd'hui une société vivante qui a besoin de spécialistes.
Le château de Guédelon qui est dans le sud de Lyon, hein, formidable.
Oui.
Ce qui fait débat, c'est le besoin de fondations complémentaires pour que le bâtiment existant supporte le poids de cette flèche. Mais ce que vous dites, c'est que depuis toujours, les monuments doivent être rénovés. Et pour qu'ils continuent de vivre, les travaux d'entretien, au-delà d'être nécessaires, peuvent être lourds.
Mais une cathédrale, quelle qu'elle soit, Saint-Denis ou ailleurs, a toujours nécessité des travaux d'entretien permanents. Il ne faut pas croire que le patrimoine traverse les siècles comme ça, avec simplement des admirateurs. Ça marche peut-être pour les pyramides, et encore, ça ne marche pas pour une cathédrale aussi complexe et fragile. Un chantier comme celui du clocher de la flèche de Saint-Denis peut être suivi de siècle en siècle à travers ces travaux. Et c'est grâce à ça que le patrimoine survit. C'est notre attention permanente sur ce patrimoine. C'est l'intérêt qu'il suscite auprès du public qui permet les dépenses publiques qui prennent en charge sa restauration.
Concernant l'espace funéraire sous la flèche, hein, c'est aussi ce qui fait l'objet des débats. Précisez bien qu'une campagne archéologique va avoir lieu pour être certain que cet espace sera préservé avant les travaux de consolidation du bâtiment.
Mais j'allais dire, c'est une des choses les plus choquantes de la tribune. Qu'il y a des détracteurs ou des controverses sur un projet, c'est bien normal et un débat est indispensable. Mais quand les détracteurs sont obligés d'inventer de fausses actions, bah, ça me rassure, ceux qui n'ont pas de véritables reproches à faire au projet.
Merci beaucoup, Jacques Moulin, de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes l'architecte en chef des monuments historiques et vous dirigez le chantier de la flèche de la basilique de Saint-Denis. Merci.
Merci de vos questions. Bonne journée.
Il est 6h moins quart sur Europe 1 et 6h moins quart, c'est la prescription culture et le mercredi, c'est cinéma avec Laurie Choleva.
Bonjour Laurie.
Salut Ambline, salut Julien, bonjour à vous.
Salut à toi Laurie, tu nous conseilles ce matin un triangle amoureux.
Et oui, c'est Amant, le nouveau film de Nicole Garcia, qui prouve une nouvelle fois qu'on n'oublie jamais son premier amour. C'est l'histoire de Pierre Ninet et Stécie Martin, qui incarnent Simon et Lisa, deux amoureux qui doivent se séparer à la suite d'un drame. Le personnage de Lisa refait sa vie auprès de Léo, joué par Benoît Magimel, un homme plus âgé qui lui offre un confort de vie, une sécurité matérielle. Mais voilà qu'un beau jour, elle recroise le beau Simon.
Ça te plaît ?
Oui.
Tu as trouvé où ce gars ? Dis-moi. Vous savez conduire ?
Je dois aller demain matin à Zurich. Un aller-retour dans la journée. Enfin, si vous êtes libre. Oui ?
Oui.
On s'est retrouvés. On se quitte pas.
Qui c'est qui a dit que les sentiments sont toujours réciproques ?
Qu'est-ce que t'as fait ?
Tu penses qu'un type comme ça, ça s'achète pas ?
Alors évidemment, les acteurs sont sensationnels, il y a une atmosphère particulière et puis le talent de Nicole Garcia de filmer merveilleusement bien les rapports humains. Écoutez justement Benoît Magimel qui nous parle d'amour et de la passion amoureuse.
C'est toujours dangereux de succomber à l'amour. Il y a toujours un risque. Et je crois que quand on a aimé, quand on a déjà vécu et souffert, on vit autrement les choses. Je me souviens de Musset qui disait qu'on peut aimer qu'une seule fois, éperdument, totalement, et qu'après c'est autre chose. Voilà. La passion, en fait, c'est très destructeur. C'est ce qui arrive le plus souvent la première fois. Il faut être un peu passionné, un peu raisonnable, un peu de tout. Il faut un équilibre.
Laurie, également cette semaine, un coming out.
Oui, un coming out auditif, celui de l'acteur-réalisateur Pascal Elbé qui a choisi de traiter d'un problème personnel, la perte de l'audition, mais par le biais de l'humour. Ça donne en effet pour s'entendre une comédie romantique drôle et pleine de charme. C'est un vrai coup de cœur. C'est l'histoire d'Antoine, prof d'histoire qui forcément, comme il n'entend pas, passe pour celui qui n'écoute rien ni personne, ce qui irrite ses collègues, ses élèves, mais surtout sa nouvelle voisine Claire, venue s'installer temporairement chez sa sœur avec sa fille, qui rêve de calme et de tranquillité, mais forcément, quand son voisin est sourd, eh bien le réveil, il sonne beaucoup trop fort. Et la musique, elle s'écoute à fond.
J'en peux plus, là, d'être réveillée tous les matins par votre réveil de merde, là.
Vous avez pensé à mettre des boules qui est ?
Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça ?
Vous n'entendez à rien.
J'entends bien ou j'entends rien ?
Rien.
Rien ?
Oui, rien.
J'ai un peu peur de me reprendre une porte dans la gueule.
Baisse la garde, écoute ton cœur, fonce, là.
J'ai pas votre numéro.
07 54.
Merci.
C'est brillant, c'est profondément humain, il y a beaucoup de pudeur aussi, c'est jamais dans le mélo, il y a juste de l'humour, de la douceur, des acteurs merveilleux, bourrés de charme, des seconds rôles hilarants de François Berléand à Claudia Tagbo. Et puis ce travail sur le son qui rappelle le film Son of Metal qui est impressionnant puisqu'on ressent vraiment ce qu'entend Antoine et ce qu'entend un malentendant appareillé, c'est-à-dire qu'il n'est jamais confort, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Bref, j'ai adoré ce film.
On est fait pour s'entendre de et avec Pascal Elbé, c'est un film Europe 1. Merci beaucoup Laurie Choleva.
Europe Matin,
Ombline Roche et Julien Pierce.
Elle, on l'entend parfaitement, cet Alban Le Prince avec le rappel des titres.
Près de 20 000 nouveaux cas de Covid en France ces dernières 24 heures. La dernière fois que ce taux avait été atteint, c'était fin août. L'exécutif pousse donc plus que jamais les Français à se faire vacciner. Une étude gouvernementale menée sur les personnes de plus de 20 ans révèle d'ailleurs qu'il y a environ 9 fois plus de décès du Covid chez les personnes non vaccinées. Chiffre similaire pour les admissions en soins critiques. 1000 maires à l'Élysée. Ce soir, opération séduction pour Emmanuel Macron à quelques mois de la présidentielle, juste après l'annonce des résultats de l'élection du nouveau président des maires de France. Deux candidats en lice, David Lisnard, vu comme l'héritier du sortant François Baroin, et Philippe Laurent, jugé Macron compatible.
Europe Matin.
On ouvre à présent vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celui ou celle qui l'a écrit.
Bonjour Delphine Blanchard.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes journaliste à La Nouvelle République et vous nous emmenez ce matin à Poitiers où depuis quelques semaines, une drôle d'équipe de rugby s'est constituée.
Oui, c'est ça. Depuis septembre, tous les lundis soirs, dans les lueurs des éclairages du stade Rébeillot qui se trouve en centre-ville de Poitiers, eh bien, on fait du soft rugby. Alors du soft rugby, surtout... On ne fait pas de mêlée et on fait que des passes. Et c'est du sport santé tout en douceur. On y va tranquillement parce que les joueurs sont des malades. Parfois, certains sont atteints de cancer ou en rémission. D'autres ont des troubles neuropsychologiques. D'autres encore ont des soucis chroniques. Et donc, on essaye de réapprivoiser son corps et de se réconcilier avec lui grâce au rugby.
Et tout se passe évidemment sous la supervision d'un médecin.
Exactement, ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment le stade Poitvin Rugby qui a mis en place ça. Et donc il y a un médecin qui est le médecin bénévole du club, parce qu'en fait cette drôle d'équipe est vraiment licenciée du club en amateur, en loisir, mais vraiment licenciée du club. Elles ont une licence à l'année. Et donc il y a le médecin, puis il y a aussi surtout Tom. Tom c'est l'éducateur. L'éducateur pas comme les autres parce qu'il est également joueur de rugby bien évidemment et étudiant et il est en train de faire un master qui évidemment colle tout à fait à ce beau projet, c'est physique adapté santé. Donc vraiment ça colle exactement avec la théorie et il met en pratique tout ça sur le terrain.
L'idée de ces entraînements de soft rugby c'est de démontrer que le sport peut accélérer la convalescence.
Oui, c'est vraiment ça. A priori, des études ont démontré que l'exercice physique, c'est à la fois bon pour la convalescence, qu'en cas de cancer, ça diminue les risques de récidive, et puis en cas de traitement médicamenteux un peu lourd, eh ben, ça amoindrit les effets. Et les joueurs que j'ai pu rencontrer m'ont dit aussi que psychologiquement, quand on est sur le terrain, à faire des passes, on se vide la tête, et c'est aussi... le plus important quand on est malade.
Et puis ça doit faire du bien de faire des passes à des personnes qui sont atteintes du même type de maladie ou en tout cas qui traversent la même période difficile.
Oui, c'est un peu ça l'idée. C'est sur le terrain, il n'y a plus de malades, il n'y a plus de soignants, il n'y a plus d'éducateurs. On est tous au même niveau. On sait tous qu'on a des soucis. Lors de la première séance en septembre, ils se sont tous un peu racontés. Mais désormais, nous sommes des gens comme les autres. Et nous faisons avec nos caractéristiques et on se fait des passes en toute bienveillance. L'idée, c'est surtout pas la compétition, c'est le plaisir et les sourires lundi soir sur le stade se voyaient.
Eh ben, c'est une très belle initiative. Merci beaucoup Delphine Blanchard de nous l'avoir partagé avec nous ce matin. C'est à lire aujourd'hui dans La Nouvelle République. Très bonne journée et à bientôt.
Merci, au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Excellent mercredi à tous. Avec nous, il est 5h55. Dans un instant, la météo, le journal et des lanceurs d'alerte.
Qui pourrait bientôt bénéficier, Omblin, d'un statut plus protecteur en France? Il faut dire que bien souvent, ces hommes et ces femmes paient au prix fort les scandales qu'ils révèlent au grand jour. Licenciements, carrières brisées, procédures judiciaires à répétition. Tout cela a un coût humain et financier. Et le problème, c'est que l'actuel texte de loi n'est pas suffisamment efficace. Il faut davantage protéger nos lanceurs d'alerte. Ils sont indispensables. Et c'est le sens de cette proposition de loi qui sera examinée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Que va-t-elle changer? On en parle dans une petite dizaine de minutes maintenant avec le rapporteur de ce texte, le député Sylvain Wasserman. On écoutera ensuite votre partition, Blin.
L'un des porte-étendards de la French New Wave. Étienne Dao et sa musique pop made in France, distillée depuis 40 ans. Rendez-vous dans 20 minutes. A tout de suite.
Vous écoutez Europe 1, nous sommes le mercredi 17 novembre. Il est presque 6 heures.
C'est des gens qui ne viennent pas pour travailler, ils viennent là pour vous piller, pour vous voler, pour vous agresser. On est tranquille quelques heures, mais dans une demi-heure, ils sont de nouveau là.
Le désarroi des habitants de la Guillotière à Lyon, quartier gangréné par les trafics. Opération coup de poing des forces de l'ordre hier. Ce matin, la paix est de retour. Mais pour combien de temps? Reportage dans un instant. Un chiffre inédit depuis la fin du mois d'août. Près de 20 000 nouveaux cas de Covid détectés en France. Parmi les traitements, bientôt une pilule anti-Covid. Une demande vient d'être déposée aux États-Unis. Nous retrouverons notre correspondant sur place. Et puis, le slip chauffant. Est-ce que vous connaissez? On parle ce matin de contraception masculine avec cette nouvelle méthode thermique. Moins radical qu'une vasectomie.
Europe Matin, Omblin Roche. Roche et Julien Pierce.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Une nuit calme après une journée agitée dans le quartier de la Guillotière, épicentre de l'insécurité à Lyon. Hier, une opération de police musclée a tenté de rétablir la tranquillité de ces rues populaires du centre-ville. Interpellation et contrôle d'identité pour disperser les trafiquants. Oui, mais pour combien de temps? Le supermarché du quartier a même décidé de baisser le rideau à 17h. Les habitants lassés sont à bout de nerfs. Le reportage de notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Boujon.
Voilà des mois que les habitants de la Guillotière crient leur colère. Des mois aussi qu'ils se sentent délaissés par les autorités. Leur quartier est devenu le lieu de tous les trafics à Lyon, à ciel ouvert qui plus est, avec ses rassemblements quotidiens de dealers et de vendeurs à la sauvette qui créent l'insécurité, explique cet habitant.
C'est épouvantable, le quartier. Ils sont très agressés. Moi, on m'a volé une chaîne récemment que j'avais sur moi.
Vous ne vous sentez pas en sécurité?
Pas du tout. Ça fait 40 ans que j'habite le quartier. Ça a changé. Hein.
Pourtant, la Guillotière, ce n'est pas la banlieue de Lyon. C'est au contraire un quartier central, à 5 minutes à pied de la place Bellecour. Un quartier résidentiel et commerçant. Les commerçants, justement, désespérés par la situation, comme Michel Dulac, fleurissent ici depuis des années.
On y trouve toutes les denrées interdites, l'ecstasy, la cocaïne, et même toutes les choses qui ont été volées dans la journée. Je trouve ça assez inadmissible. Tous les commerçants et les riverains, ils en ont ras-le-bol, parce qu'on nous pourrit notre vie du quotidien. Nous sommes en danger. C'est des gens qui ne viennent pas pour travailler, ils viennent là pour vous piller, pour vous voler, pour vous agresser.
Cette opération de police, oui. Vous en pensez quoi?
Je considère que c'est du brassage de l'air. On est tranquille quelques heures. Dans une demi-heure, ils sont de nouveau là.
Plus que des opérations coup de poing, les riverains réclament donc une présence policière permanente dans le quartier. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et pour maintenir la sécurité du quartier, le préfet du Rhône a annoncé hier le renfort de 30 CRS pour les semaines à venir.
Vous l'avez peut-être constaté autour de vous, parmi vos collègues, vos amis, votre famille, les contaminations Covid bondissent en France. Près de 20 000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures, un plafond que la France n'avait pas atteint depuis la fin du mois d'août.
Aux États-Unis, Pfizer a demandé une autorisation en urgence pour commercialiser sa pilule anti-Covid, un traitement à prendre chez soi dès l'apparition des premiers symptômes.
Le laboratoire américain a aussi signé un accord de licence volontaire. Traduction, un moyen de faciliter la production et la diffusion de ce médicament via d'autres fabricants. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Alexis, cet accord, c'est surtout une bonne nouvelle pour les pays pauvres de la planète.
Oui, parce que les fabricants de médicaments génériques pourront fournir ce traitement à 95 pays, un peu plus de la moitié de la population mondiale, dont des pays pauvres, et les prix seront adaptés aux capacités de paiement des États. Avec cet accord, Pfizer renonce également à percevoir des redevances sur ce traitement tant que l'OMS considère le Covid-19 comme une urgence internationale. Et puis cette pilule est plus facile à produire et à utiliser que le vaccin, pas de chaîne du froid à respecter, elle peut être prise à domicile. Mais il y a tout de même quelques bémols. Des pays durement touchés par la pandémie, comme le Brésil ou la Russie, sont exclus de l'accord. La pilule doit être utilisée après une contamination, ce qui pose la question des capacités de test dans les pays les plus pauvres. Alors d'après les essais cliniques de Pfizer, son traitement est efficace à 89% contre les hospitalisations et les décès. Comme la pilule de son concurrent Merck, elle empêche le virus de se répliquer dans l'organisme. Dans l'attente d'une réponse des autorités sanitaires, Pfizer a déjà commencé à produire. L'administration Biden devrait, elle, commander dès cette semaine 10 millions de doses de ce nouveau traitement.
6 heures passées de 3 minutes sur Europe 1. C'était une figure montante du trafic de drogue marseillais. Karim Arat a été arrêté dimanche à l'aéroport de Casablanca au Maroc.
Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, soupçonné d'être impliqué dans un règlement de compte en août 2020. Un homme avait été tué, un autre gravement blessé. L'enquête avait été confiée à l'époque à la police judiciaire de Marseille et à son directeur, Eric Arella.
Il s'agit d'une personne là, qu'on connaît très bien, qu'on a ciblée comme étant une figure montante du narcobanditisme marseillais, qui a clairement gravi les échelons et dont nous parlons beaucoup depuis au moins un an, deux ans. C'est une arrestation effectivement importante. On a une année troublée. On a enregistré 13 homicides volontaires qualifiés de règlement de compte, ne serait-ce que sur le pourtour de l'été, une poussée de fièvre que nous n'avions que rarement connue. Le simple fait de procéder à des arrestations en masse amène souvent des conséquences positives, mettre hors circuit des individus nocifs, calmer le jeu des oppositions. Ça a parfois l'effet inverse, créer le vide et susciter en tout cas des vocations pour ceux qui sont en opposition. Ça ne nous empêche pas pour autant de continuer notre action de manière très résolue.
Éric Arella, directeur de la police judiciaire de Marseille, joint par Caroline Baudry.
Et si la contraception n'était pas qu'une affaire d'hommes ? C'est un serpent de mer, de retour dans le débat cette semaine. Les plus grands urologues du pays sont réunis en congrès à Paris.
Et parmi les pistes à l'étude, la méthode thermique, bien moins radicale qu'une vasectomie. L'idée est de réchauffer la température des testicules au point d'empêcher la création de spermatozoïdes. Un slip chauffant, en quelque sorte. Les explications d'Afsane Saboui.
Pendant des années, on a attendu la pilule masculine. En vain, la méthode qui pourrait être efficace est thermique. En réchauffant les testicules à 37 et non plus à 35 degrés, on perturbe la fabrication des spermatozoïdes. Comment ? Grâce à un sous-vêtement qui permet de remonter mécaniquement les testicules. Écoutez les explications de l'urologue Eric Huyg.
Au niveau de l'aine, de chaque côté du pénis, il y a un canal dans lequel les testicules peuvent remonter. Et donc le mécanisme, c'est finalement de les maintenir devant l'os pubien, en dehors du scrotum.
Alors un essai clinique est en cours sur cette méthode à Toulouse, mais dans l'attente de ces résultats, pas avant fin 2022, les urologues s'inquiètent que de plus en plus d'hommes intéressés par cette contraception portent des slips chauffants, soit de leur fabrication, soit achetés sur Internet.
On est un petit peu dans une jungle de la contraception thermique qui n'est pas validée, avec effectivement des commerçants qui s'engouffrent dans ce besoin nouveau.
Ce sous-vêtement doit être porté quotidiennement, les urologues veulent donc écarter tout risque de cancer des testicules et préciser au bout de combien de mois son effet contraceptif est vraiment fiable.
Les explications d'Afsane Saboui, spécialiste santé d'Europe 1.
Et si la contraception n'était pas qu'une affaire de femme, donc affaire à suivre, c'était le journal de Roman Hockey. Merci Roman.
Europe 1, il est 6h06, on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques, appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et les Bleus qui finissent l'année sur une bonne note, très bonne note.
Oui, l'équipe de France est allée s'imposer en Finlande hier pour son dernier match de l'année 2021. Une victoire 2-1 qui s'est dessinée en fin de match grâce à la paire Benzema-Mbappé, tous deux buteurs. Les Bleus finissent donc l'année en fanfare, victoire en Ligue des Nations et qualification pour le Mondial. De quoi satisfaire le sélectionneur Didier Deschamps.
Le bilan est quand même positif. Si j'écarte 10 minutes d'égarement qui nous ont été fatales. On finit l'année civile invaincu, même si, bon, pour certains et pour moi, match nul contre la Suisse, c'est une défaite malgré tout. Mais voilà, l'équipe de France a prouvé encore une fois la qualité, l'état d'esprit, le mental, et confirme qu'elle reste très compétitive.
Didier Deschamps au micro Europe 1 de Jean-François Pérez. Et puis on connaît depuis hier le dernier qualifié direct de la zone euro pour le Qatar. Ce sera les Pays-Bas, vainqueurs de la Norvège 2-0. L'Ukraine et la Turquie rejoignent le Portugal ou encore l'Italie en barrage. 12 équipes sont sur la ligne de départ pour 3 places. Rendez-vous au mois de mars. Enfin, un choc qui accouche d'une souris. Cette nuit, l'Argentine et le Brésil se sont neutralisés 0-0.
Au volet judiciaire, Martin, 2 nouvelles plaintes pour viol contre Benjamin Mendy.
Oui, le champion du monde emprisonné depuis août en Angleterre est désormais visé par 6 plaintes pour viol et 1 pour agression sexuelle. Son procès pourrait avoir lieu en janvier. Et puis l'avocat de Keira Amraoui sort du bois dans le journal L'Équipe. Maître Saïd Harir dénonce les fausses informations qui circulent sur sa cliente, clouée au pilori. La milieu du PSG est au cœur d'une sombre affaire d'agression dont elle a été victime il y a 10 jours.
Dans le reste de l'actualité sportive, Martin.
Du basket et la marche était trop haute pour l'ASVEL. Les Villeurbanne ont chuté hier contre le Real Madrid en Euroleague. Du tennis et le Masters de Turin, Daniil Medvedev, vainqueur d'Alexandre Zverev hier, est déjà qualifié pour les demi-finales. Et enfin du karaté pour finir avec les championnats du monde à Dubaï et l'entrée en lice aujourd'hui du champion olympique Steven Dacosta. Le Français vise un deuxième titre mondial.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Comment protéger davantage les lanceurs d'alerte ? Eh bien, c'est l'objet d'une proposition de loi qui sera examinée tout à l'heure à l'Assemblée nationale. On en parle dans une minute avec l'un des auteurs de ce texte, le député Sylvain Waserman. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Julien, est député MoDem du Bas-Rhin.
Bonjour Sylvain Waserman.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin à quelques heures du début de l'examen à l'Assemblée nationale de votre proposition de loi. Proposition visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Ils sont pourtant déjà protégés par la loi, non ? Pourquoi ce texte ?
Alors effectivement, la France avait une loi en 2016 pour protéger les lanceurs d'alerte, mais elle avait beaucoup de lacunes. Et d'ailleurs, il y a eu un rapport parlementaire de deux de mes collègues qui montrait toutes ces lacunes. Et aujourd'hui, les lanceurs d'alerte deviennent des véritables piliers de nos démocraties. Il faut mieux les protéger, et c'est l'objet de ce texte.
Concrètement, quels sont les cas de figure qui aujourd'hui échappent à la loi et que vous comptez donc corriger ?
Alors très concrètement, on a regardé chaque étape de la vie d'un lanceur d'alerte, depuis qu'il identifie une alerte à lancer, qu'il la lance. Et dans chacune de ces étapes, on a fait progresser la situation. Je donne deux exemples concrets. Aujourd'hui, un lanceur d'alerte est obligé de se tourner à l'interne de son entreprise s'il découvre une atteinte à l'environnement, au droit, ou un sujet grave qu'il veut révéler.
Il ne peut pas aller directement vers la presse, hein, c'est ça. Sinon, il ne peut pas être considéré comme lanceur d'alerte.
Exactement. Demain, il aura des interlocuteurs désignés, des autorités indépendantes qui auront l'obligation de traiter dans des délais impartis son alerte au fond, parce que le lanceur d'alerte et son alerte sont indissociables. Donc il aura des autorités indépendantes qui auront la mission de travailler sur l'alerte elle-même. Autre exemple, les représailles. Beaucoup de lanceurs d'alerte vont vous dire « je risque, je crains ou je vis des représailles ». Eh bien demain, lancer une représaille contre un lanceur d'alerte deviendra un délit pénal. Et on travaille à la fois sur éviter ces représailles et aussi sur accompagner financièrement, notamment pour couvrir ses frais d'avocat,
on va y revenir.
Les lanceurs d'alerte.
On va y revenir parce que, avant d'aborder ce point, il y a une grande avancée potentielle si votre texte est adopté, c'est que vous voulez étendre la notion de lanceur d'alerte à toute personne divulguant des informations, même si ces dernières révèlent des faits qui ne tombent pas sous le coup de la loi. C'est bien ça la grande nouveauté de votre texte ?
Alors, il y a plusieurs grandes nouveautés réellement à chaque étape. Mais le droit français avait déjà un sens large. Tout citoyen peut être lanceur d'alerte. Il arrive une directive européenne qui, elle, va plus en détail dans le monde de l'entreprise. Et le travail qu'on a fait au Parlement, parce que c'est une loi issue du Parlement, eh bien, c'est de prendre le meilleur des deux mondes, de prendre le meilleur de ce qu'on avait dans le droit français, le meilleur de cette directive qui arrive, pour en faire, je crois, ce qui sera la meilleure législation européenne dans le domaine de la protection des lanceurs d'alerte. Et j'ai commencé il y a 3 ans ce travail en étudiant au Conseil de l'Europe l'ensemble des droits européens. Donc je peux vous dire que si on arrive à passer ce texte, et il y a tout lieu de croire qu'on y arrivera puisqu'il a été voté à l'unanimité en commission, ce qui est toujours la première étape, eh bien si on parvient à aller jusqu'au bout, on aura le meilleur droit pour protéger et donner la juste place à nos lanceurs d'alerte dans la société.
Pour en revenir à la question que je vous posais il y a un instant, ça veut dire que si ce texte avait existé au moment du scandale du Mediator, par exemple, Irène Frachon aurait bénéficié d'une protection vu que les faits qu'elle dénonçait à l'époque n'étaient pas délictueux ?
Oui, tout à fait. Il faut bien voir que c'est l'atteinte à l'intérêt général qui peut être révélée, pas seulement un crime ou un délit. Donc l'atteinte à l'intérêt général, évidemment, quand il s'agit de santé publique ou d'environnement, il est évident et il faut le reconnaître comme tel. Donc tout ce qu'on construit dans ce texte, c'est réellement créer les conditions pour que la parole se libère. Vous savez, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui aide, qui contribue à l'intérêt général parce qu'il révèle des atteintes au droit ou à l'intérêt général. Donc ce sont des alliés de la démocratie et de l'état de droit. Donc c'est vraiment leur redonner la place qu'ils doivent avoir dans notre société, dans notre démocratie.
Vous le disiez, ce qu'attendent également les lanceurs d'alerte, c'est un soutien financier pour faire face aux frais de justice qui peuvent être colossaux si l'entreprise ou l'administration visée par les révélations attaque la personne qui divulgue les informations.
Absolument.
Et là aussi, vous faites une avancée pour ces lanceurs d'alerte ?
Alors nous avons une innovation en droit. C'est que le juge pourra, à bref délai, imputer les coûts de la défense à l'attaque. Donc imaginez des gros enjeux financiers qui attaquent un lanceur d'alerte. Le juge pourra, vu que le combat est inégal en quelque sorte, qu'on a un David contre un Goliath, il pourra faire porter les coûts de la défense par l'attaque. Ça, c'est une innovation. Il pourra également, dans des cas critiques où les lanceurs d'alerte peuvent être en situation extrêmement fragile parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils sont en situation précaire pendant quelques mois ou quelques temps, il pourra aussi lui allouer des subsides aux dépens de l'attaque.
Donc, dernière question, Sylvain Waserman, j'aimerais vous la poser avant qu'on arrête cette interview. Là, en revanche, où votre proposition de loi présente des limites, à mon sens, c'est que toutes les informations couvertes par le secret défense ou encore le secret de l'enquête sont exclues de ce dispositif. Donc un Julian Assange ou un Edward Snowden, on ne le protège pas.
Alors c'est vrai que les secrets, et d'ailleurs la directive européenne reconnaît ces secrets, le droit français le fait aussi, mais ces secrets ont des dérogations dans le droit, et dès lors qu'une dérogation existe, alors ce champ est ouvert aussi aux lanceurs d'alerte.
Merci beaucoup Sylvain Waserman, député MoDem du Bas-Rhin, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir présenté cette proposition de loi qui sera donc examinée en première lecture cet après-midi à l'Assemblée nationale. Bonne journée et à bientôt.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la partition d'Étienne Daho.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
6h et bientôt 19 minutes sur Europe 1. Les principaux titres de ce mercredi avec Alban Le Prince.
Un millier de maires reçus ce soir à l'Elysée. Emmanuel Macron sort le grand jeu pour les reconquérir à quelques mois de la présidentielle. Juste après l'annonce des résultats de l'élection du nouveau président des maires de France, les élus peuvent voter en ligne jusqu'à 15h. Du jamais vu, depuis fin août, près de 20 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés hier en France. Et puis la situation dégénère à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, où migrants et forces de sécurité polonaises se sont affrontés hier. Loukachenko dit vouloir éviter que la crise ne dégénère en confrontation avec l'Europe.
On termine avec de la musique et votre partition, Omblin. Il fête ses 40 ans de carrière ce mois de novembre et dès la sortie de son premier album en 1981, Étienne Dao a redéfini les codes de la variété française.
Une musique pop made in France avec des influences rock et un brin de new wave british à la fin des années 70. Les idoles du jeune chanteur rennais s'appellent Marquis de Sade, groupe emblématique de la new wave française, et Sticky Toys, Deli Medeiros et Jacques No. Ils encouragent le timide Étienne Dao à enregistrer ses premières maquettes qui deviendront l'album Mythomane.
Il ne dira pas, non, il ne dira pas. Il ne dira pas, non, il ne dira pas.
Mythomane est salué par la presse spécialisée, mais le public, lui, ne suit pas.
Un chanteur extraterrestre au pays de la variété, comme l'écrit Jean-Emmanuel Deluxe dans son livre French New Wave. Et même si les chiffres des ventes ne sont pas là, la pop fait son entrée en France par la grande porte et Étienne Dao devient la figure de proue d'une nouvelle génération d'artistes qu'on va se mettre à inviter sur les plateaux télé.
La révolution est musicale, mais bien sûr également esthétique.
Dans les années 80, Étienne Dao va parader avec un perfecto de cuir noir sur le dos. Et puis penchez-vous sur la pochette du deuxième album, la fameuse marinière de la notée en 1984. Sur une photo signée Pierre et Gilles, entre dans la légende, symbole d'une French touch élégante.
La notée, Étienne Dao gagne le statut de vedette.
Il s'installe au cœur du Paris bouillonnant et emmène avec lui celui qui a également été biberonné au son pop-rock de Rennes, Arnold de Turboust. Sur ce deuxième album, le duo a fait des étincelles. Leur nouvelle chanson, Tombée pour la France, laisse entrevoir ce à quoi va ressembler bientôt la Daomania.
Ce succès permet à Étienne Dao de rassurer sa maison de disques et d'être plus libre de ses mouvements.
Oui, avec Arnold Turboust, ils se sentent incompris en France, direction Londres, pour concrétiser leur rêve d'une musique écrite en français dans un écrin britannique. Pop Satori, né en Angleterre mais s'achève au pays. Dans la même euphorie, Étienne Dao raconte ne pas se souvenir avoir dormi dehors toute la nuit. Il écrit les textes le matin et passe la journée en studio. Suivre la folie des fans qui viendront soudainement trop l'aimer. Pour un chanteur réservé, ce succès jugé presque démesuré va le déstabiliser.
Par le tempo possédé sur la piste.
Épaule tatouée, extrait de l'album Pop Satori en 1986, où le début de la folie, la Daomania. Étienne Dao fête ses 40 ans de carrière et le 3 décembre, il va recevoir la grande médaille de la chanson française de l'Académie française pour l'ensemble de sa carrière.
C'est noté, merci beaucoup. Omblin, y aura-t-il une Pavlenko-mania? On verra bien. En tout cas, Dimitri Pavlenko arrive dans un instant dans ce studio. À tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27, excellente matinée sur Europe 1.
Et on vous dit à demain, à 5h.
Oui.
Pétante, bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
J'arrive en catastrophe ce matin.
Oui, on vous a vu courir.
Oui,
voilà. Il va tomber.
Reprenez votre souffle. Oh, ça va, ça va. Le souffle va bien.